Et on commence avec le premier sujet de ce journal. Selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Science, sur Mars, les tempêtes de poussière rejettent de l'eau de son atmosphère.
Et Mars, une planète autrefois riche en eau, est à présent un désert sec où les tempêtes de poussière sont très fréquentes. Selon cette équipe américaine, ces mêmes tempêtes de poussière ont sûrement contribué à transformer Mars en monde aride. Les chercheurs ont analysé les données de la sonde MAVEN de la NASA et ils ont découvert que des traces de molécules de H2O dans la haute atmosphère, hein, à des altitudes beaucoup plus élevées qu'on ne le pensait. H2O réagit avec les ions de la haute atmosphère, se décompose et s'échappe dans l'espace. Ils ont aussi découvert un rythme saisonnier. La haute atmosphère contient plus d'eau lorsque Mars est plus proche du Soleil ou lorsqu'il y a une forte tempête de poussière. Selon leur modélisation photochimique, ce processus d'évacuation a influencé l'évolution de son climat. Au cours du dernier milliard d'années, cela aurait asséché Mars. La planète aurait ainsi perdu l'équivalent d'un océan mondial d'une centaine de mètres de profondeur.
En bref, selon une étude parue dans Nature Communications, le nerf optique peut se régénérer grâce à la thérapie génique.
Une équipe internationale vient de régénérer des cellules nerveuses optiques de souris. Normalement, les dommages sur ces cellules sont irréversibles. Lors de plusieurs expériences, les chercheurs ont montré que l'augmentation de la production d'une protéine, la protrudine, stimule la régénération des cellules. Les chercheurs ont donc dopé la production de protrudine chez des souris adultes. Après une lésion du nerf optique, il s'avère que les axones se sont régénérés sur le long du nerf optique. Alors reste à vérifier si cette protéine a le même effet protecteur sur des cellules rétiniennes humaines. Si c'est le cas, cela serait une nouvelle piste thérapeutique pour traiter le glaucome, la première cause de cécité au monde.
En bref toujours, une étude parue dans la revue eLife décrit une nouvelle cible pour lutter contre le paludisme.
Et chaque année, cette maladie touche environ 200 millions de personnes et elle a causé, en 2018, près de 400 000 morts. 5 espèces du parasite Plasmodium en sont responsables et elles développent des résistances à tous les médicaments. Ces parasites ont un cycle de vie complexe qui alterne des stades actifs et inactifs. Une équipe du CNRS a découvert que les Plasmodium se déplacent et infectent les cellules de leur hôte grâce à la myosine A, une protéine qui joue un rôle fondamental dans le déplacement des cellules et dans la contraction musculaire. Bloquer l'action de la myosine A pourrait être une nouvelle cible médicamenteuse pour la recherche de futurs antipaludiques.
Selon une étude parue dans Geophysical Research Letters, les panaches d'eau sur Europe, la lune de Jupiter, ne proviennent pas de son océan souterrain.
Et pour la recherche d'une vie extraterrestre, Europe fait souvent office de bonne candidate. On sait qu'il existe, sous sa surface, un océan souterrain recouvert d'une couche de glace. Et à sa surface, des panaches de vapeur d'eau très salée qui se répandent dans l'espace. Des planétologues américains ont simulé l'origine de ces panaches. À partir des données de la sonde Galileo, ils ont examiné un cratère d'impact large de 29 km. L'impact qui a créé ce cratère aurait fait fondre une grande partie de la glace et aurait provoqué une éruption cryovolcanique. Ces panaches d'eau ne proviennent donc pas de l'océan souterrain, mais de réservoirs à sa surface, des lacs beaucoup moins profonds. Selon eux, la couche de glace d'Europe reste très dynamique.
Et cette semaine, dans le Journal des Sciences, nous avons parlé de l'annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech et de leur vaccin contre la Covid-19, de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, de la découverte d'un crâne d'hominidé vieux de 2 millions d'années et de la Covid-19 qui augmente les risques de troubles psychiatriques. Mais également, dans l'actualité des sciences, Natacha, en ultra bref.
Cette année, la saison des ouragans a officiellement battu un record. Dans le sud-est des États-Unis, les Caraïbes et l'Amérique centrale, en 2020, on a recensé 29 tempêtes tropicales. En cause, le changement climatique qui augmente la température des océans et qui rend les cyclones plus puissants. Le US National Hurricane Center affirme qu'il y a de fortes chances pour qu'un 30e ouragan se forme avant la fin de l'année. Cette semaine, en Birmanie, une découverte rare. Une nouvelle espèce de singe a été découverte grâce à des analyses ADN. Ce primate de 50 cm a été baptisé Popa Langur. Et comme la plupart des espèces nouvellement découvertes, le Popa Langur est menacé d'extinction on ne compte que quelques centaines de spécimens. Et enfin, SpaceX s'apprête à lancer demain, en Floride, 4 astronautes vers l'ISS, à bord de sa fusée Falcon 9 et de sa capsule Crew Dragon. 3 Américains et un Japonais vont rejoindre la Station Spatiale Internationale. Avec cette fusée et ce vaisseau américain, ce lancement marque la fin de la dépendance des États-Unis envers la Russie pour le transport de ces astronautes.
Et on passe comme un vendredi sur deux au journal de la science-fiction. Selon une étude parue dans la revue MDPI, il y aurait un peu moins de 50% de chances pour que nous vivions dans une simulation informatique.
Mais nos vies sont-elles réellement réelles? Ou est-ce que notre réalité est simulée par une intelligence artificielle? Un peu comme dans le scénario de Matrix. C'est la question de départ de David Kippin, le professeur à l'Université de Columbia. Alors, l'hypothèse n'est pas nouvelle, elle a d'abord été formulée en 2003 par le philosophe suédois transhumaniste Nick Bostrom, avec sa théorie de la simulation. Alors, dans cette nouvelle étude, l'Américain s'est appuyé sur ses travaux, mais aussi sur une approche bayésienne. Cela consiste à calculer les probabilités pour qu'une hypothèse soit plus vraisemblable qu'une autre. Alors, s'il arrive à un peu moins de 50% de chance, c'est parce qu'il est impossible de prouver si nous vivons ou non dans une simulation. Même si nous étions des êtres virtuels vivant dans une illusion, aucun élément concret ne permet de le prouver. Mais l'auteur fait aussi valoir le principe du rasoir d'Occam, selon lequel l'explication la plus simple est la plus réaliste. Alors, en attendant d'avoir des preuves solides, le quatrième opus de Matrix, réalisé par Lana Wachowski, doit sortir le 22 décembre 2021, avec toujours un Keanu Reeves dans son rôle de Neo et toujours Carrie Ann Moss pour Trinity.
En bref, les États-Unis renforcent leur militarisation spatiale.
La Space Force de l'armée américaine, fondée en 2019, va créer une unité spéciale consacrée à la guerre orbitale. L'unité en question s'appelle Delta 9 et elle sera dotée de la très secrète navette X-37B. Une navette expérimentale conçue pour des vols sans équipage. Auparavant, elle était sous la tutelle de l'US Air Force. Sa fonction exacte n'a pas été communiquée, tout cela est classifié, mais X-37B devrait mener, je cite, « des opérations de protection et de défense de l'espace afin de fournir des options de réponse pour dissuader et vaincre les menaces adverses dans l'espace ». Alors, les États-Unis ne sont pas les seuls à s'engager dans cette voie. La Russie, l'Inde, la Chine ainsi que la France développent des technologies anti-satellites pour de futures opérations militaires.
En bref toujours, la Russie veut être le premier pays à tourner le premier film de fiction dans l'espace.
Et on assiste à un nouveau type de course spatiale. Il y a quelques mois, Tom Cruise, la NASA et SpaceX avaient annoncé travailler ensemble pour le tournage d'un film hollywoodien à bord de l'ISS, pour le premier film narratif en dehors de l'atmosphère terrestre, avec le réalisateur Doug Liman. La Russie entre donc dans cette odyssée cinématographique. La chaîne russe Channel One, en collaboration avec l'agence spatiale Roscosmos, veulent être les tout premiers. Un film pour vulgariser les activités spatiales de la Russie et pour glorifier la profession de cosmonaute. Channel One prévoit 1 milliard de dollars de budget pour un tournage prévu en octobre 2021.
Et enfin, côté parution, une histoire de la science-fiction en BD est à paraître aux éditions Les Humanoïdes Associés.
Une maison d'édition qui connaît bien son sujet, puisqu'en 75, elle édite le magazine Métal Hurlant. Le 18 novembre prochain, en papier et en version numérique, elle publie l'album documentaire de 200 pages, sobrement intitulé « Histoire de la science-fiction en bande dessinée ». Qui a écrit le premier récit de science-fiction et quelles sont les évolutions du genre? Qui a inventé ce mot? D'où vient le salut Vulcain? Le tout est rédigé par Xavier Dolto et illustré par Djibril Morissette-Fan. On peut aussi noter la parution aux éditions de La Talente, la sortie d'un MOOC sur Dune et sur l'univers de Frank Herbert, avec notamment une interview de Denis Villeneuve.
Et nous consacrerons d'ailleurs une émission sur Dune très très prochainement. Et enfin, Natacha, comme chaque vendredi, nous terminons ce journal par la rubrique des sciences improbables. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une étude parue dans la revue Animal Behavior sur les stratégies d'accouplement de certaines araignées.
Et chez les araignées, les femelles sont plus grosses que les mâles et la plupart du temps, elles finissent par manger leur partenaire. Des chercheurs tchèques ont filmé et observé au ralenti les ébats de couple de Phyllodromidae. Les images en slow motion montrent que pour éviter d'être mangé, le mâle bondit sur la femelle, la mord et lui ligote les pattes avec de la soie. Puis après s'être accouplé pendant 19 minutes, il s'enfuit. Mais les chercheurs ont aussi découvert que certaines femelles ligotées se libèrent rapidement pour dévorer leurs assaillants, tandis que d'autres se laissent faire. Selon les chercheurs, les cordages de soie contiennent peut-être des messages chimiques qui séduisent ou non les femelles.
Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences.